Salut Jérôme.
Salut.
Aujourd'hui, on va parler de Lipit.
Lipit?
Ouais. Bah, c'est la start-up française qui fait un petit peu peur aux services américains de traduction audio et vidéo avec la synchronisation labiale.
Ok.
Bon, t'es prêt en régie là?
Moi, je suis prêt. Elisa est toute impatiente de nous parler. Ouais, tout est prêt.
Bon, allez, c'est parti, on lance. Merci d'avance pour ta réalisation, petits oignons.
Oui, tu vas pleurer à la fin. Tellement elle sera, petits oignons. Allez, à tout de suite.
Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément. Bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, nous allons à la rencontre du créateur de Lipit, ce service de traduction audio et vidéo, encore en phase de bêta-test fermé, mais qui fait déjà beaucoup parler de lui. Il serait déjà meilleur que ses concurrents américains pour une offre bien moins chère. Notre invité va nous expliquer comment il en est arrivé là. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. Merci à notre directeur d'antenne, Olivier Gréco, de nous permettre cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune, que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-singulier.fm et sur son app Android et iPhone. Vous nous retrouvez aussi sur la bande FM 93.1 et bien sûr le DAB+, et sur votre plateforme de podcast préférée. Un petit like, un petit partage à vos amis sur les réseaux sociaux, c'est notre seule récompense. Et en plus, ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes.
Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Je ne sais pas si vous avez vu les vœux de Michel-Édouard Leclerc en 2024, réalisés par l'agence Brainsonic. Ça se retrouve assez facilement sur le web, mais je vous mets quand même le lien en description du replay podcast de cette émission. On y voit Michel-Édouard Leclerc face caméra, qui se met successivement à parler en français, en espagnol, en italien, avec un accent impeccable. Puis tout d'un coup, hop, il y a un deuxième Michel-Édouard Leclerc qui rentre dans la scène et qui en fait nous révèle que le premier n'était qu'un avatar et que lui, il n'est pas prêt de se faire remplacer. Cette vidéo, elle est emblématique de ce qui est désormais possible de faire en matière de traduction vidéo avec synchronisation labiale. L'acteur désormais établi est l'américain Heijen, je sais pas si je le prononce correctement, mais on verra bien, dont l'hégémonie et l'avance semblaient indétrônables jusque-là. Autre acteur déjà très connu, Eleven Labs. Cette fois, c'est un autre acteur qui fait dans le registre text-to-speech, c'est-à-dire que avec ce service-là, vous pouvez générer de l'audio d'une voix que vous allez choisir dans un catalogue ou que vous allez cloner, mais à partir d'un texte. Vous écrivez un texte et ça génère une voix. On pourrait faire une émission de radio entière avec ce type de service. D'ailleurs, je pense qu'il y en a déjà sûrement qui ont déjà été faites. Même si les voix manquent quand même parfois un peu encore de naturel et d'émotion. Bon, ces services américains, ils étaient bien en place jusqu'à ce qu'un petit Français dénommé Lipit décide de venir les titiller sur leur activité. Alors, il n'est pas encore totalement ouvert au grand public, mais on en dit déjà beaucoup de bien et que les résultats sont bien meilleurs. Son créateur est avec nous aujourd'hui et il va nous dire comment il en est arrivé là et quelles questions techniques, économiques, éthiques aussi, la traduction audio et vidéo peuvent lui poser en phase de développement et de lancement d'un service. Bonjour Antoine Ménager.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio.
Avec plaisir.
Alors je précise que nous filmons cette émission. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que peut-être, on verra si vous voulez bien ou si ça marche bien, on traduira peut-être cette émission.
C'est ce que je me suis dit, c'est le meilleur use case.
En plusieurs langues. Bon, la deuxième information, c'est que Jérôme, du coup, est aux manettes de deux réalisations, la réalisation audio et la réalisation caméra. C'est sans pression, hein, Jérôme, hein, tout repose sur tes épaules. Voilà. Alors Antoine, parlez-moi d'IA. Et parlez-moi un peu avant tout de vous, au départ. Vous êtes diplômé de votre école d'ingénieur en 2021.
Ouais.
Et vous l'affichez sur les réseaux, donc je permets de vous poser la question, mais vous décidez tout d'un coup, après ce diplôme, de suivre plusieurs formations complémentaires en même temps, ESSEC, HEC, Sorbonne, Polytechnique.
Exact.
Qu'est-ce que ça vous a apporté comme ça, ces compléments de formation à votre formation d'ingénieur?
Bah en fait, c'est assez simple. J'ai fait des études d'ingénieur. Sauf que je suis pas technique au fond. J'ai senti que j'avais plutôt une fibre business et une fibre entrepreneuriale. Et donc, je me suis posé la question de me dire, est-ce que je me cantonne toute ma vie à faire du technique et à sortir en tant qu'ingénieur dans le monde du travail, ou est-ce que j'essaie de toucher un peu autour dans plein de domaines pour essayer de me former et essayer d'être meilleur dans les domaines business, commercial, comptabilité. À Sorbonne, j'en ai fait un peu. Voilà.
Donc, vous avez eu besoin de compléter.
Ouais, c'est exactement ça. En fait, toutes les formations en France, je trouve qu'elles sont assez, on dit généralistes, ouais. Mais elles sont quand même très verticales. Ouais. Et vous êtes fait pour sortir d'une certaine façon, ou du moins à la sortie de votre école, vous pouvez après évoluer. Mais moi, j'avais envie de faire tout de suite ce qui me plaisait. Donc ouais, j'ai fait un peu d'IA à Polytechnique, un peu de conseil à la Sorbonne, un peu d'entrepreneuriat à HEC, voilà.
Un peu de SS à l'ESSEC.
Ouais, bon, ça, c'était mon côté impact.
Et du coup, votre première boîte, c'est une boîte à impact, c'est Salut Translate.
Exactement.
Qu'est-ce qu'elle faisait cette boîte qui...
Alors, c'est ce qu'il a été renommé Signifia, du coup à la revente, qui fait de la traduction automatique en langue des signes. Le but était assez simple. Les grands groupes avaient une obligation légale de rendre accessibles tous les contenus digitaux aux personnes en situation de handicap, dont les sourds et malentendants. Bah, le seul problème, c'est que il n'y avait rien sur le marché pour faire ça. Le sous-titrage, globalement, à 80% des sourds et malentendants qui ont un problème de dyslexie à la lecture. Donc, ça veut dire qu'en gros, ils voient des mots, mais ils comprennent pas ce que veut dire une phrase. Et donc, il fallait leur parler dans leur langue, une de leurs langues, qui est la langue des signes. Et donc, nous, on a créé un service qui permettait à n'importe qui de parler en langue des signes. C'était déjà des avatars à l'époque.
C'était déjà des avatars.
Exactement.
Vous donniez en entrée de l'audio ou de la vidéo, et à côté, il y avait une sortie langue des signes.
Exactement, il y avait deux process. Un process pour enregistrer les avatars, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi facile que maintenant. Donc nous, on avait un petit studio portable. On allait chez les grands groupes pour enregistrer les personnes qui voulaient être le symbole en langue des signes de l'entreprise. Et un process, en effet, audio, tout langue des signes. Et puis, on combinait tout ça pour que les personnes puissent parler. C'était assez impressionnant à l'époque.
Bon, on voit bien arriver déjà la première brique hein, de ce dont on va parler juste après. Ensuite, vous lancez l'agence iMai, c'est ça?
Ouais. Alors, moi, je dis AMEI, mais c'est la même chose.
AMEI, ok, d'accord. Et donc, c'est une agence d'automatisation qui est basée essentiellement sur l'orchestration de travaux que vous confiez à des freelances. Alors, et là, il y a plein de notions. Là. C'est quoi une agence d'automatisation déjà?
Une agence d'automatisation, c'est très simple. C'est... En gros, on a vu que l'IA est en train de prendre une ampleur incroyable et moi j'adore ça puisque j'étais avant la trend, avant la tendance dedans et donc voilà, je voulais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est aller voir dans chaque société pour savoir comment les aider à mettre un peu d'IA partout, à automatiser tout ça pour que ce soit fonctionnel, durable et surtout pas trop cher parce que maintenant on peut faire des choses pas trop chères.
Et du coup, c'est aussi là où vous avez développé un leitmotiv autour du travail des freelances
totalement.
D'arriver à travailler avec des indépendants.
Totalement. En fait, à date, tous les développeurs, freelance et les personnes avec un haut potentiel dans l'IA sont indépendants pour une raison toute bête, c'est que c'est comme ça qu'ils font plus d'argent qu'être salariés.
Ouais.
Parce qu'en France, on sait bien, on a beaucoup de mal à faire les transitions. Et donc, globalement, les salaires s'alignent jamais de toute façon chez nos concurrents. Donc, on a deux choix. Soit on part aux États-Unis ou en Arabie Saoudite, ou soit on reste en France, mais on est indépendant. Et donc, moi, je voulais avoir ces plus beaux profils. Et pour avoir ces plus beaux profils, j'étais obligé de les employer en tant qu'indépendant.
Et là, en ce moment, vous êtes en train un peu d'y revenir en disant sur les réseaux sociaux, vous communiquez beaucoup, on va y revenir sur les réseaux sociaux. Mais vous dites, il y a un moment où on monte une boîte, il y a un moment donné, quand même, il faut arriver à recruter dans la boîte. Et du coup, il faut que les gens soient moins indépendants et moins freelance. Pourquoi ça change tout d'un coup, là? Pourquoi vous changez de registre?
Alors, c'est complémentaire, c'est pas deux registres différents, c'est vraiment complémentaire. On garde une douzaine de freelances en parallèle. C'est juste que des freelances sont pas là au jour le jour et sont pas là sur l'évolution du produit non-stop. Et on a besoin d'avoir des gens et de créer une vision au sein de la boîte qui permet aux gens aussi de se projeter plus tard. Quand on recrute un stagiaire ou un CDI, c'est pour que demain ce soit le lead tech, c'est-à-dire vraiment la personne qui lead toute une équipe technologique sur l'IA et toute notre application. Et pour ça, le problème, c'est qu'un indépendant, s'il a un meilleur contrat à côté, il ira au meilleur contrat.
Ouais.
Et nous, on peut pas se permettre de perdre nos talents. Et donc, on commence, oui, en effet, à recruter pas mal d'ailleurs.
C'est la nécessité de la continuité, en fait, de construire la continuité dès maintenant.
En fait, les indépendants, ça permet d'aller vite sur un premier produit à sortir, un test. Mais ensuite, pour consolider, il faut des gens qui soient H24 sur la société. Ouais.
Alors, on le disait, sur les réseaux sociaux, vous communiquez beaucoup. Il y a une vraie stratégie. Je disais, vous dites même une stratégie de faire du bruit. Vous êtes nouveau, vous êtes en lancement. Et il y a une vraie stratégie de faire du bruit, parfois en clivant un petit peu sur les réseaux sociaux. Pourquoi finalement cette start-up, vous devez faire du bruit pour vous faire entendre justement, et pourquoi cette stratégie?
Alors déjà, à date, tous les contenus en relation avec l'IA font plus de bruit qu'on ne le maîtrise.
Ouais.
Donc on a de la chance sur ça aussi. C'est pas forcément que
l'amplification
du fait de notre talent, c'est aussi du fait de la tendance actuelle. Mais au-delà de ça, non, nous on veut faire du bruit parce que bah on est petit. Et quand on est petit, pour se faire voir, on est obligé d'utiliser les canaux à date actuelle, c'est les réseaux sociaux. Et donc on est obligé d'utiliser tous les réseaux sociaux pour essayer de se faire connaître. Et ça, bah nous on essaye de l'optimiser au maximum, notamment avec LinkedIn et un fort personal branding. Parce que en fait on s'inspire des Américains. Les Américains, soit ils créent des sociétés qui sont très vite rentables avec beaucoup d'argent et ça marche, ou soit ils créent des sociétés qui prennent un peu plus de temps, ce qui va sûrement être notre cas, mais par contre avec un fort personal branding, c'est-à-dire une personne qui illustre la société et qui incarne la société. Et ça, bah, c'est mon rôle.
Très bien. Et donc après Signifia et après Amei, vous décidez tout d'un coup de lancer Lipit.
Exactement. En fait, c'est un des clients.
Oui.
De l'agence Amei qui m'a...
Comment vous décidez à lancer Lipit?
Bah, c'est un des clients de l'agence Amei qui me demande à un moment de savoir s'il peut traduire en fait toutes ses vidéos dans toutes les langues. Parce qu'il a un gros marché français, ouais, un marché émergent espagnol et un marché émergent dans les pays de l'Est. Et il me demande est-ce qu'on peut utiliser de l'IA, parce qu'il ne connaît pas et c'est mon rôle avec l'agence de mettre de l'IA partout, bah, de savoir si on peut traduire tout ça.
D'accord.
Et ça fait tilt.
Et donc vous faites un premier test ?
Je fais un premier test jusqu'à fin de l'été, donc août.
Ouais.
Et je sors une version et je me dis, soit cette version, elle est super et je crée une nouvelle société. C'était pas mon but à la base de remonter tout de suite une startup. Mais voilà, ou soit elle est pas très qualitative. Je l'intègre à mon agence. Je facture quand même des prestations dessus parce que c'est déjà waouh. Mais ce sera pas une société et il y aura des géants américains qui vont venir récupérer ce marché-là. Je l'avais pressenti. Bah, ça n'a pas manqué. Un mois et demi plus tard, Agen notamment sort la feature, ce qui fait l'effet waouh.
Ouais. Mais alors du coup, vous, votre test, il n'était pas si mal que ça, puisque vous avez continué quand même.
Bah, en fait, il était de la qualité du géant américain qui arrivait juste après. Donc on s'est dit qu'on pouvait pas les laisser gagner.
Ouais.
Donc j'ai fait un petit tour d'investissement pour lancer la société.
Et donc aujourd'hui, c'est en bêta privée, donc on peut s'inscrire et puis au fur et à mesure du temps, on accède au service.
Exactement.
Je souligne que je n'ai pas encore accédé au service, donc j'estime qu'il y a assez de sources qui vont dans le bon sens pour imaginer que votre produit il est très bon.
Normalement, la semaine prochaine, tu devrais avoir accès.
Bon, voilà. Donc la semaine prochaine, en plus, je pourrai faire les tests. Et c'est quoi les prix du coup des offres par rapport justement à vos concurrents? Qu'est-ce que vous envisagez de faire de différent? Alors, qualité au moins équivalente et du coup une offre particulière.
Bah, alors déjà, je reviens sur la bêta privée. Pourquoi c'est privé? C'est oui. Simplement parce qu'on n'est pas des Américains et donc on n'a pas de l'argent infini. Et donc on ne peut pas se permettre d'avoir des serveurs qui tournent non-stop pour héberger tout le monde.
Non? Ah, c'est dommage.
Voilà, c'est dommage, mais c'est la réalité. Donc l'avantage, c'est qu'on a signé des très beaux partenariats, notamment avec notre fournisseur Scaleway, qui est du coup une des boîtes de Xavier Niel en tant qu'investisseur principal et qui est un partenaire idéal pour justement avoir de la puissance de calcul. Donc ça, c'est toute la raison pour laquelle on garde ça privé, juste le temps d'avoir assez d'argent pour vraiment acheter de la vraie puissance de calcul, parce qu'on n'est pas américain. Et de l'autre côté, pour ton autre question qui était plus sur le côté prix, globalement, nous, on est obligé de se différencier.
Oui.
Je vous parlais de faire du bruit. On est aussi obligé de se différencier sur les prix.
Ouais.
Et donc, on est 2 à 3, voire 4 fois moins cher en fonction des concurrents.
Ah oui.
Sur l'offre. À date, nous, on va jusqu'à 70 centimes la minute pour la transcription, la traduction, du voice cloning, du lip sync, donc synchronisation labiale, et du text in painting, c'est-à-dire que tous les textes qui apparaissent en plus sont traduits in place, donc c'est-à-dire au même endroit, dans la même forme, mais dans l'autre langue. Et donc, à date, il n'y a pas de concurrent. Mais bon, c'est peut-être aussi pour ça qu'on est en bêta privée pour l'instant.
Ouais.
Donc on release progressivement, ça veut dire qu'on fait venir des gens sur la plateforme progressivement. On a eu plus de 8000 bêta testeurs, donc on est très chanceux. Et donc la semaine prochaine, normalement, on release tout ça et tout le monde pourra y accéder.
Et ça devient public du coup?
Ça devient public la semaine prochaine.
Très bien.
Exactement.
Donc au moment où vous écoutez cette émission, a priori, c'est public. Vous pouvez aller sur le site et c'est public.
Donc c'est lipit.com.
Lipit.com. Techniquement, du coup, ça repose sur quelle techno? Parce qu'en fait, ça paraît complètement fou, quoi, que nous, les petits, vous, les petits Français, vous arriviez justement à sortir des choses qui soient potentiellement du niveau d'acteurs qui sont très reconnus. Techniquement, comment vous avez fait?
Alors, c'est assez drôle pour expliquer ça. C'est très simple. Agents a été créé il y a 3 ans. Ma première boîte, c'était aussi il y a un tout petit peu plus de 3 ans. En fait, les briques technologiques que j'utilisais à l'époque sur ma première société, c'est les mêmes qui ont évolué. Et donc, je les connais très bien. Et donc, en fait, j'ai pas de retard par rapport à des concurrents puisque bah, j'étais déjà dans le milieu. Donc déjà, ça, c'est la première chose. C'est un peu remettre son expertise et remettre les choses qu'on connaît en avant. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai créé un POC, donc un proof of concept, quelque chose qui la preuve que ça marche très rapidement, alors que normalement, on prend plusieurs années. Et ensuite, on a aussi une chance énorme, que on soit français, américain ou etc. Si on arrive à lire l'anglais et qu'on sait traduire le chinois avec ChatGPT, avec Google, oui. Et bah, globalement, on a accès à une infinité de choses puisque l'open source est devenu bah, vraiment la clé pour lancer des sociétés.
Ouais, vous le confirmez ça, que pour lancer une société, aujourd'hui l'open source c'est très important pour
à date, je prends un exemple tout bête, il y a Alibaba qui est un des géants chinois a lancé un algorithme qui s'appelle Emo qui permet de prendre une image et de créer un avatar tout de suite. En quelques minutes, c'est incroyable. Mais en fait, vous pouvez aller taper Emo Alibaba, vous avez tout, pas le code détaillé, mais vous avez tout le process de comment ils ont fait. Ils ont documenté tout ça. Et donc, c'est montré au public.
Ils le publient où ?
Alors, c'est sur un site qui s'appelle Archive.
D'accord.
C'est là où il y a toutes les thèses de tous les chercheurs qui apparaissent. Et donc, il vous suffit juste de regarder exactement ce qui se fait, d'aller chercher les bons repos GitHub, c'est-à-dire les bons bouts de code, et d'essayer de recréer ça, vous. Et donc, en fait, nous, on a fait ça pour évoluer, pour faire évoluer aussi le service tout au fur et à mesure de l'année. Et après, par contre, le vrai challenge, c'est d'entraîner ces algorithmes et donc d'avoir les bonnes bases de données.
De les fine-tuner sur ce que vous voulez qu'il soit le meilleur.
Exactement.
Après ces premiers partages, merci beaucoup. Je vous propose de faire une petite pause musicale parce qu'on est déjà à la moitié du temps. Et notre programmateur musical, Gare Laban, a voulu vous faire un petit clin d'œil, à la motivation de l'entrepreneur. On va écouter, alors je vais encore le dire en anglais, mais donc Left Behind the Gold par le groupe Cards.
But I think that you should know. Anybody ever thought that they could steal away the flow? Left me all the shine, left me all the glow. The glow.
Merci Cards, merci Galaban. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à Lipit, la start-up française dans la traduction audio et vidéo qui a décidé de défier ses concurrents américains. Nous sommes toujours avec son fondateur Antoine Ménager. Antoine, on évoquait donc un peu la solution et comment elle fonctionne. Donc il y a déjà des bêta-testeurs en cours sur la solution qui est en train de s'ouvrir. Donc peut-être qu'au moment où on parle, elle est déjà ouverte, lipit.com. C'est quoi les premiers usages que vous constatez de cette solution par vos premiers utilisateurs ?
On a deux grosses catégories d'utilisateurs. Après, on a un micmac de plein de gens qui ont envie de tester, mais globalement, on a deux grosses catégories. C'est des agences digitales qui revendent le service.
Ouais.
Donc bon, nous, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit qu'on aimerait que ce soit les gens directement qui utilisent, mais globalement, c'est un peu le marché des réseaux sociaux. C'est de revendre des choses à des gens qui ont plus d'argent, mais qui n'ont pas de temps.
Ouais.
C'est la réalité. Et la deuxième utilisation, c'est le e-learning.
Oui.
C'est qu'en fait, quand on travaille pendant quelques centaines d'heures sur une formation pour le montrer au public, on se demande pourquoi
on le fait qu'en français.
Ouais. Exactement, ça sert à rien. Autant passer sur de l'espagnol, de l'anglais, etc. Et surtout, nous, le fait qu'on a une fonctionnalité qui permet de tout corriger au cas où on l'a pas bien détecté, c'est que les gens, ils peuvent dormir tranquilles puisque la version finale, c'est bien la version qu'ils ont vérifiée. C'est bien une version très correct en espagnol, en chinois, en quoi que ce soit.
Et la solution, elle marche quand il y a plusieurs voix sur la piste ?
Alors, elle marche quand il y a plusieurs voix sur la piste. Elle marche quand il y a plusieurs têtes qui apparaissent aussi, puisque potentiellement on peut être côte à côte, sauf que c'est vous qui parlez et moi j'écoute juste à côté, et bah, faut bien que du coup ce soit vos lèvres qui bougent et pas les miennes. Ça, nos concurrents par exemple pour l'instant ils savent pas le faire, donc on est très content de ça. Et voilà, c'est plein de petites choses qui font que on a un produit qui est plus produit que démonstration technologique. Et c'est ça qu'on a vraiment envie de garder dans l'ADN, c'est que oui, en effet, on a envie de les concurrencer, on a envie d'être bon, mais on a surtout envie d'avoir un bon produit.
Ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas encore de radio, en fait.
Il n'y a pas encore de radio. On est en train de signer pas mal de choses, sur, mais c'est connexe à Lipid, c'est une utilisation différente de la plateforme et de l'outil. Mais oui, on signe des choses. En fait, c'est juste que c'est des émissions souvent qui sont plus longues.
Oui.
Donc, on a envie juste de les aider sur ça.
Très bien. Bah, Jérôme, bientôt en japonais, hein, parlez-moi d'IA. Du coup, vous êtes sur là. Ce qui est ainsi intéressant, et c'est gentil de nous partager tout ça, c'est de comprendre la trajectoire, qui est hyper rapide pour cette entreprise. Vous êtes sur dans votre trajectoire de levée de fonds aussi qui va intervenir.
Totalement.
Vous n'avez pas encore vraiment levé totalement.
Alors, on a fait un premier tour qui est un tour de lancement de société.
Ouais.
Simplement parce que les gens l'ont pas en tête, mais quand on crée des startups, on met pas notre propre argent.
Ouais.
On demande de l'argent d'autres s'ils veulent nous suivre sur ce projet-là. C'est très rare de mettre son propre argent et c'est très risqué parce que il y a une startup sur 10 qui réussit. Donc, voilà, il y a des gens qui sont faits pour ça, c'est prendre ces risques-là. Donc ça, c'est un premier tour. Et ensuite, là, oui, on est en train de réfléchir à un deuxième tour, du coup, cet été, pour lever beaucoup plus d'argent et aller en fait profiter de notre croissance pour aller réellement défier les Américains. À date, ils sont encore beaucoup plus gros que nous, mais bon, on a une meilleure techno. Donc,
c'est ça. À date, ils sont encore meilleurs, mais on va aller les chercher. C'est ça que vous dites.
Exactement.
En fait. Très bien. Sur les réseaux, je le disais, vous êtes très cash parfois, et notamment en fait sur les conséquences que ça peut avoir, parce que bien sûr, ça va potentiellement. Alors, quand je dis potentiellement, c'est qu'il y a peut-être des métiers qui vont être impactés par le fait de plus avoir de gens qui vont venir doubler potentiellement les voix sur certaines vidéos ou sur certaines audios. Comment vous envisagez cette question-là, en fait, du remplacement ou de la substitution à certains métiers?
Moi, je crois pas au grand remplacement des humains par l'IA. J'y
non.
crois pas. Mais par contre, oui, il y a des métiers qui vont disparaître, ou du moins des qualifications de métiers qui vont disparaître. On prend l'exemple de traducteur, par exemple. Mmh. Bah oui, la traduction vocale, le fait de faire bouger l'élève, ils peuvent pas le faire. Donc forcément, l'IA est meilleure sur certains points. Néanmoins, au cinéma, l'IA commence déjà à être intégrée. On va au Festival de Cannes très prochainement pour présenter le produit aussi. À date, les doubleurs continuent à faire leur métier. C'est juste qu'on vient derrière synchroniser les lèvres des acteurs qui parlent. Donc, en fait, les métiers vont disparaître, mais petit à petit. Et surtout, il y a un truc qui est important à avoir en tête, c'est que même si des métiers disparaissent, des gens vont se reconvertir et avoir un nouveau rôle. Je prends souvent l'exemple de la caissière. Oui, il y avait 4 caissiers avant. Maintenant, il n'y en a plus qu'une aux bornes automatiques. Il y en a une qui a fait le choix quand même d'accepter l'innovation et d'aller aux bornes automatiques. Elle n'a pas perdu son boulot. C'est comme ça que la société, elle fonctionne et qu'elle évolue. Donc moi je suis cash en disant que oui, ça va faire disparaître des métiers.
Oui, c'est cash quand vous dites ça, c'est très cash pour le coup.
C'est en fait
vous comprenez que ça peut potentiellement un peu choquer certaines personnes quand elles entendent dire ça, quoi. C'est-à-dire que si on se dit mais pour le coup c'est.
Mais encore une fois, moi j'ai 26 ans, peut-être que dans 20 ans, 30 ans, je dirais d'autres choses et je les formulerai autrement. Mais à date, moi je parle comme je ressens les choses. À date, l'IA va remplacer énormément de métiers. Faut pas en avoir peur parce que les ressources vont être redistribuées, donc vous inquiétez pas. Mais par contre, oui, ils vont remplacer des métiers. Et les premiers métiers qui sont impactés, il faut qu'ils soient conscients. Parce qu'une se reformer sur l'IA, c'est pas instantané. J'ai vu que vous avez fait un super podcast avec Sophie Arras, la formatrice. Ce qu'elle disait, c'est qu'en 3 heures, on peut pas tout voir non plus.
Non.
Typiquement, c'est pareil, l'IA, au global, ça prend des années à l'apprendre et surtout à l'appréhender. Et donc pour ça, faut commencer maintenant si vos métiers disparaîtront dans 2, 3, 4, 5 ans.
Et en même temps, vous disiez quelque chose en préparation de cette émission quand on s'est parlé. Vous me disiez un truc qui était hyper intéressant, c'était le fait de dire que vous allez quand même avoir besoin d'humains pour continuer à entraîner vos algorithmes, parce que sinon il y a un risque d'un entraînement sur lui-même, c'est ça?
Exactement, c'est ce qu'on appelle le plafonnement de l'entraînement d'une IA. Globalement, si vous entraînez toujours sur des données, imaginons les humains, on a parlé sur Terre je sais pas combien de milliards d'heures, et on donne tout ça pour faire un super modèle qui parle super bien. En fait, ce modèle, il va rester à ce niveau d'excellence, mais il n'ira pas plus haut. Il sera pas meilleur parce que il peut que générer une qualité
Qu'il a déjà. Ouais.
Il ne pourra pas s'améliorer. Donc, il y a des processus qui permettent un peu de le faire, mais globalement, ça ne marche pas très bien. En tout cas, à date. On verra peut-être dans les années à venir. Ouais. Donc oui, on a besoin de gens. Vous avez fait un épisode qui parlait notamment des clics Amazon pour détecter les piscines. Mmh. Bah, typiquement, oui, ça, c'est des gens qui cliquent. Alors non, c'est pas des gens qui cliquent pour dire est-ce que c'est une piscine ou c'est pas une piscine. C'est des gens qui cliquent pour entraîner une intelligence artificielle pour savoir ce qu'est une piscine ou non. Mais oui, on a besoin de gens. On a besoin de gens qui font de l'opérationnel. Et donc, même les métiers qui sont pas très qualifiés, il y en a qui vont clairement rester. Et les traducteurs, bah, nous, on vend un service, mais par contre, on est très content que les traducteurs viennent nous expliquer que bah, cette formulation en chinois, elle n'est pas
bonne.
Elle
est l'émotion peut-être pas, ne passe pas autant que ce qu'il pourrait faire.
Le rythme des doubleurs, par exemple, très important. La VF, très connue dans le monde entier, la version française des films. Mais en fait, on ne traduit pas ce que disent les Américains. On adapte à la langue française. Mmh. Et bah, pour apprendre tout ça et pour que nos algorithmes puissent le faire, il faut qu'ils nous aident à le faire.
Bon, et puis il y a une autre grande problématique avec, avec votre service, potentiellement, hein, c'est le deepfake. C'est tout ce que ça peut produire. Alors, comment vous réfléchissez à ça? Vous me disiez en préparation que c'était vraiment un point que vous regardiez avec attention.
Surtout en ce moment, parce que on a eu beaucoup de gens du coup qui utilisent le produit, et en fait, bah, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui l'utilisent pas très bien ou pas dans le bon sens. Et nous, on n'a pas envie. On a envie, oui, d'être une startup qui explose, qui concurrence les Américains, c'est vrai, mais on a surtout envie d'être un peu éthique et un peu conscient de notre société et de ce qui se passe. Et donc, on a envie de faire les choses bien. Donc, ça passe par plusieurs choses. Oui, on peut tout éditer, donc on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui avec notre outil, c'est vrai. Mais pour ça, on a mis déjà un watermark visible et invisible, donc un watermark qui dit que c'est généré par IA. Bon, au moins comme ça.
C'est une espèce de coup de tampon sur ce que vous avez produit, et comme ça, on sait que le coup de tampon, on pourra le repérer.
Exactement.
Alors, on saura que ça a été produit avec Lipit.
Qui est visuel, donc ça, c'est important, mais vous pouvez l'enlever dans les, si vous payez très très cher dans le service.
Ouais.
Mais par contre, non, la réalité, c'est un watermark invisible, c'est-à-dire un tampon qu'on voit pas, en fait.
Ouais.
Et que plus tard, bah, Google, Instagram, n'importe quel service qui va montrer cette vidéo, et bah, pourra vérifier que ça a été produit par Lipit et généré par IA. Et ça, c'est ce que tout le monde demande, mais que personne ne fait parce qu'on a l'impression que ça freine la technologie. Alors que non, c'est juste un ajout de quelque chose. Oui, il faut faire attention, mais c'est juste un ajout de quelque chose.
On a vu apparaître effectivement sur YouTube une petite mention qui disait « Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir certifier que la vidéo que vous êtes en train d'uploader, elle présente quelqu'un qui a vraiment dit ça et qui est vraiment la personne qui est en train de parler
?»
Et ça, c'est nouveau, donc du coup, ils vont adorer Watermark.
Bah oui, en fait, le seul problème de tout ça, c'est que si on se base sur ce que les gens disent, ça peut toujours être contourné. Alors que si juste on se met d'accord d'un point de vue mondial ou du moins européen sur se dire n'importe quelle application qui génère par IA doit mettre dans les metadata, c'est-à-dire en gros des petits trucs que tous les fichiers ont, que ça a été généré par IA, à partir de ce moment-là, on pourra le retracer et on pourra être sûr qu'on ne le perde pas dans la toile.
Très bien. Bon, et puis on voit aussi sur les réseaux, sur vos communications, votre souhait très fort de construire un produit français. Ça passe par quoi de construire un produit français quand on fait de l'IA aujourd'hui?
Ah, j'ai envie de dire surtout, ça passe par être soutenu par des Français.
Ouais.
Et je pense que c'est la clé de tout. Les Américains, ils sont patriotes. Quand il y a quelque chose d'américain qui sort, bah, tout le monde le teste en premier et ils vont pas voir les autres. Et nous, en France, on a un petit problème avec ça. On a tendance à aller simplement, par exemple, au moins cher, alors que bon, il y a peut-être 1 euro de différence par mois. Et exemple parfait, Spotify versus Deezer, hein, voilà, le meilleur exemple. Mais voilà, moi, nous, on pense qu'on peut être le prochain Deezer, mais le Deezer qui dépasse Spotify, parce que bah, faut montrer aux Français qu'on peut être moins cher que les Américains, qu'on peut faire aussi bien qu'eux. Et que bah surtout on a des talents et nous on paye très bien nos talents, justement un cadre de travail incroyable pour que bah les gens nous rejoignent et se disent j'ai le choix, soit je vais aux États-Unis, bon d'accord, je gagne allez 10% de plus, mais bon Lipit il paye bien quand même, j'ai les vacances illimitées, j'ai plein de choses. Donc bon, allez, on vient chez Lipit.
Bon ben, on va tous essayer d'aller chez Lipit, mais peut-être pas pour aller travailler déjà, pour essayer de tester le service. C'est l'heure de conclure, merci beaucoup pour ce partage.
Nous, nous sommes des boîtes noires et que c'est dangereux. Mais penses-tu connaître toutes les règles de gestion qui t'animent ?
Ah mais c'est vrai qu'il y avait Elisa qui nous écoutait, et du coup, elle a une question pour vous.
On dit que nous, les IA, nous sommes des boîtes noires et que c'est dangereux. Mais penses-tu connaître toutes les règles de gestion qui t'animent ?
Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine ?
Bah, je pense que les IA, c'est comme les humains. Hein. On a une belle carapace, mais à l'intérieur, personne ne sait réellement comment ça fonctionne. Et oui, les IA, c'est ça. On l'entraîne, c'est-à-dire qu'on lui donne tout ce qu'il faut, ça s'appelle l'éducation hein, et l'entourage pour les humains. On lui donne un maximum de choses et puis après, bah, il se construit par elle-même. Donc oui, je pense que je suis une boîte noire et surtout par rapport notamment à la communication. Quand on communique, on est obligé de se fermer à ce qu'on a envie de communiquer et pas forcément parler de là où on habite. On a eu un problème parce que j'ai dit où on travaillait, typiquement. Donc il y a des choses, il faut faire attention. Voilà.
Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On vous retrouve sur lipit.com. On vous souhaite le meilleur pour la suite.
Merci.
Et puis, bah, écoutez, n'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler les algorithmes. On reste sur 93.1 sur Cause Commune. Il y a plein d'autres émissions à découvrir sur cause-commune.fm. Et je vous dis à bientôt. We'll be right back.